France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
Dans les supermarchés en France, les aliments ultra transformés occupent près de la moitié des rayons et représentent plus d'un tiers de l'alimentation quotidienne d'un adulte. Quelles conséquences ont-ils sur la santé ? Charcuterie, nuggets, bâtonnets de crabe, steak végé, brioche, yaourt à boire, la liste est longue. Ils ne sont pas nécessairement synonymes de malbouffe. En magasin bio, ils peuvent constituer jusqu'à 26% d'un panier. Depuis les années 80, les aliments contiennent de plus en plus d'ingrédients et d'additifs. Les édulcorants pour le goût, les colorants, et les plus utilisés, les émulsifiants pour la texture. Des travaux observationnels montrent qu'ils modifient à long terme la qualité de notre microbiote intestinal. Ces aliments augmentent-ils le risque de maladies chroniques ? Aliments ultra transformés et santé, les pieds dans le plat. Mélanie Deschasseaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche INSERM au sein de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle du Centre de recherche en épidémiologie et statistique. Benjamin Alès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste chargé de recherche INRAE dans cette même équipe de recherche, le REN du CRES. Et bonjour Benoît Chassin.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche INSERM et chef du groupe Interaction Microbiote Hôte à l'Institut Pasteur. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous de nombreux liens. C'est sur notre compte @sciencecqfd. Alors quels sont les liens qui peuvent exister entre la consommation d'aliments ultra transformés et les risques de maladies chroniques. L'industrialisation de l'alimentation a-t-elle bousculé cet équilibre du microbiote ? Et si oui, comment ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour et l'emblème des premiers aliments industriels, la boîte de conserve.
C'est au début du 19e siècle à Paris qu'a commencé l'histoire de la boîte de conserve. En 1810, le confiseur Nicolas Appert publie un article sur sa nouvelle méthode de stérilisation et de conservation des aliments. Il suffit, écrit-il, de les placer dans des bocaux étanches chauffés à haute température. La même année, à Londres, un commerçant dénommé Peter Durand améliore ce procédé en utilisant des cylindres de métal recouverts d'une fine couche d'étain. Et la boîte de conserve était née. D'abord, la boîte de conserve est longtemps restée chère pour les consommateurs. Et puis, sa réputation a aussi été entachée par plusieurs scandales sanitaires tout au long du 19e siècle, comme après la découverte de centaines de conserves de viande en putréfaction qui ont transformé la boîte de conserve en symbole d'empoisonnement alimentaire. En revanche, la boîte de conserve conquiert rapidement les voyageurs, les explorateurs et les colonisateurs, à commencer par ceux qui explorent et colonisent une grande partie de l'Asie et de l'Afrique. On peut même dire qu'elle a été au 19e siècle une condition sine qua non des explorations, notamment au pôle Nord. Car la petite boîte métallique est de tous les voyages. Elle accompagne les grandes expéditions militaires comme celle des soldats français en Chine. Les marines européennes en sont friandes, car elles permettent non seulement d'abolir les distances et les saisons, mais aussi d'éviter les famines, les carences et les maladies comme le scorbut. Et aujourd'hui ? Eh bien, au moment même où on la croyait désuète, alors qu'elle était en voie de disparition, il semblerait que les survivalistes remettent la boîte de conserve au goût du jour. Dans leur esprit, elle pourrait être l'aliment phare d'un futur post-apocalyptique, sans électricité et sans produits frais. Par ailleurs, en mars 2020, on s'en souvient, la crise sanitaire du Covid-19 lui a aussi redonné une nouvelle vie. Car ce qui a été dévalisé dans les supermarchés n'était pas seulement la farine ou les pâtes, c'est bien les conserves que sont venus chercher des individus en proie, pour la première fois depuis longtemps, à la peur de la famine.
Un extrait du podcast 40 objets de la mondialisation diffusé sur France Culture en 2021. Mélanie Deschasseaux, pour compléter cette archive, comment notre alimentation s'est donc-elle métamorphosée au cours des derniers siècles ?
Mais notre alimentation moderne en fait fait de plus en plus appel à la transformation pour augmenter la durée de vie des produits, augmenter la sécurité sanitaire également, permettre d'avoir une praticité d'utilisation des nouveaux modes de consommation. Donc il y a tout un tas de facettes bénéfiques de cette transformation. Mais ces dernières années, on a pu entrer dans un champ qu'on va parler d'ultra transformation, où on se demande si on n'est pas allé un peu trop loin justement dans l'utilisation de ces procédés et la formation d'aliments qui ne ressemblent plus beaucoup aux aliments bruts qu'on avait l'habitude de consommer jusqu'alors.
Benjamin Alès, votre réaction à l'écoute de cette archive?
C'est en fait la boîte de conserve. Alors, pour dédiaboliser la boîte de conserve aujourd'hui, il y a quand même des, comme l'a dit Mélanie, des utilités à cette boîte de conserve qui ont été listées dans le petit extrait qu'on a entendu. Et en fait, toutes les boîtes de conserve, d'ailleurs, ne sont pas dites ultra transformées. Quand c'est des légumes ou des fruits qui sont en conserve et que pas d'ajout d'ingrédients chimiques comme des additifs, on ne peut pas parler d'aliments ultra transformés. C'est important de le noter. Ce sont des aliments transformés. Donc, ça, c'est bien important de le noter. Aussi, pour préciser un peu par rapport à cette petite archive et pas que les gens pensent que toutes les boîtes de conserve sont ultra transformées. Je pense qu'il faut bien le noter et pour caractériser l'évolution des comportements. En effet, c'est un phénomène qui est très étudié, ne serait-ce que nous, en épidémiologie de la nutrition, mais qui vient surtout des sciences humaines. C'est ce qu'on appelle la transition nutritionnelle qui a eu lieu dans les années 60 aux États-Unis, qui s'est poursuivie dans les pays comme la France et l'Europe du Nord et qui maintenant est en cours dans de nombreux pays, y compris des pays de l'Afrique subsaharienne, enfin qui est quasiment fini même dans certains de ces pays aujourd'hui, et qui continue sur des territoires même français comme les territoires outre-mer, où les gens avaient encore pu conserver des alimentations plus traditionnelles, du coup moins riches en aliments dits ultra transformés, et qui sont en train maintenant de se convertir à ce mode d'alimentation qui peut avoir des avantages qu'on a listés, mais aussi des inconvénients quand on dépasse un certain seuil de consommation.
On verra dans quelques instants d'ailleurs comment les aliments ultra transformés sont-ils précisément classés. Mais votre réaction, vous aussi Benoît Chassin, à l'écoute de cette archive, on évoque la transition nutritionnelle des années 60. Voilà, années 80, on passe des aliments industriels aux aliments ultra transformés.
Ouais, du coup, on commence un petit peu d'observer aussi la complexité de la question. Il y a transformation et transformation. Il y a certaines transformations qui sont très probablement utiles et qui serviront aussi au bien-être des populations, à l'accessibilité aux aliments. Et il y a très probablement aussi des transformations qui pourront avoir un effet néfaste. Donc, on commence de voir un petit peu la complexité des choses. On va en reparler avec plus tard dans l'émission avec le microbiote, l'utilisation d'additifs, etc. Mais on commence de voir un petit peu la complexité des choses et qu'il y a, voilà, toutes les transformations ne se valent pas et tous les additifs ne se valent pas et tous les aliments ne se valent pas.
Alors, mais Mélanie, il y a des chasseurs, quand on étudie les liens entre alimentation et santé, alimentation et maladies chroniques, quels sont les facteurs à prendre en compte ? Parce qu'il n'y a pas que le niveau de transformation des aliments qui rentre dans cette affaire.
Et donc en effet, quand on considère un aliment, en fait, on avait l'habitude en recherche d'étudier principalement le contenu en nutriments, donc les vitamines, les minéraux, etc. Puis ensuite, on est passé à une autre vision de l'aliment où l'aliment, c'est plus que ça. C'est aussi des aliments, par exemple, des éléments comme les polyphénols, comme les fibres. Ça va être aussi l'alcool. Et on va parler aussi des procédés de transformation, des matrices alimentaires, de la manière dont justement la texture des aliments, et on peut parler aussi de contaminants qui vont être issus soit des modes de production, soit qui peuvent être issus aussi des procédés de transformation justement, ou encore de transfert des emballages. Donc il y a vraiment beaucoup de dimensions, beaucoup de facettes à un aliment. Et nous, on parle aujourd'hui un peu de trois dimensions de l'alimentation qui seraient d'une part la qualité nutritionnelle, donc le sucre, le gras, le sel, les fibres, les protéines, etc., les vitamines, les minéraux. Une autre facette qui est la transformation, le degré de transformation. Et une dernière facette qui serait plutôt l'aspect contamination, notamment issu des modes de production, donc ce qui va être agriculture biologique ou non, notamment.
Voilà, il faut bien comprendre que le degré de transformation des aliments consommés, c'est une dimension à prendre en compte, mais ce n'est pas la seule, Benjamin Alès.
Oui, tout à fait. Mélanie vient de le dire très justement, et même pour compléter un petit peu, c'est vrai que ces effets de ce qu'on appelle matrice alimentaire, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nutriments qu'on va ingérer et comment ils vont réagir ensuite à l'intérieur de l'organisme, on a des choses qui sont bien connues de manière isolée pour certains nutriments et aliments, mais à l'échelle d'un régime, par exemple, très ultra transformé, où du coup les gens qui ont ces régimes-là vont consommer beaucoup de nutriments qui sont complètement extraits de leur milieu naturel, entre guillemets, par exemple les cellules, on va se retrouver, du coup les aliments sont tellement éclatés, chauffés, etc., que les sucres, les graisses sont libérés, etc. On ne sait pas vraiment, à l'échelle vraiment des régimes, les impacts sur l'organisme, et il y a tout un champ de recherche encore qui s'ouvre là sur cet aspect-là, donc il y a encore beaucoup de travail à faire en recherche. C'est un mécanisme qui est connu, mais qui est encore à approfondir dans les connaissances scientifiques en tout cas. Et pour ce qui est des autres dimensions, en effet, un des aspects aussi importants, c'est on est à l'échelle des aliments, c'est très important de bien connaître ce qui se passe au niveau des aliments, de la digestion de tel ou tel aliment, mais aussi de ce qui se passe au niveau vraiment des régimes, puisqu'une personne ne va jamais manger un seul aliment. Et du coup, dans les dimensions, il y a l'ultra-transformation, certes, mais aussi, par exemple, la part des produits végétaux, qui est aussi très importante. Vous l'avez mentionné aussi, le côté bio, du coup, l'absence de pesticides. Aujourd'hui, on connaît le label bio, mais on a d'autres labels qui sont en train d'arriver sur le fait que certains aliments sont garantis avec moins ou sans pesticides. Donc, il y a aussi tous ces aspects-là qui sont à prendre en compte et à mettre en balance, ce qui n'est pas toujours évident pour les consommatrices et consommateurs. Des fois, ils sont un peu perdus. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient au moins informés et conscients à peu près de ce qu'il y a dans les aliments et qu'ils puissent faire leur choix de manière éclairée.
Alors, pour bien comprendre ce qu'on a dans nos assiettes, Mélanie Deschasseaux, on l'a dit, hein, ces aliments ultra transformés peuvent donc être assez éloignés de la matière première dont ils sont issus. Mais comment sont-ils transformés précisément, hein? Comment, quels sont tous les process, toutes les techniques pour faire subir un ingrédient traditionnel tout un tas de transformations?
Alors, il y a énormément de procédés de transformation qui existent, qui sont c'est vraiment tout un champ aussi de recherche, de technologie, de l'alimentation, de la transformation. Et sur les aliments ultra transformés dont on parle, en fait, on parle d'aliments ultra transformés quand on considère que les procédés de transformation sont des procédés intenses au niveau chimique, physique, biologique, qu'ils modifient vraiment beaucoup, justement, qu'ils sont très modifiés par rapport aux aliments, aux ingrédients initiaux aux aliments de base et qui font aussi appel à une ultra-formulation, c'est-à-dire l'utilisation d'additifs ou d'ingrédients industriels comme par exemple les maltodextrines, des extraits de protéines, ce genre d'ingrédients. Donc il y a vraiment un peu ces deux facettes, c'est à la fois et les procédés de transformation, on va parler aussi bien de la pertisation dont on parlait dans l'archive, ça va être la fermentation, ça peut être donc la cuisson, la stérilisation, enfin il y a vraiment les fritures, et on va parler aussi de procédés plus industriels comme l'extrusion, l'hydrogénation. Donc ça mélange vraiment beaucoup de procédés différents, et comme le disait Benoît tout à l'heure, il y a transformation et transformation, tout ne pose pas forcément problème, mais en tout cas on a besoin d'étudier finement ces questions pour savoir justement ce qui pose problème et ce qui ne pose pas de problème.
Qu'est-ce que vous étudiez finement, Benoît Chassin? Ce sont les additifs, hein, 300 additifs alimentaires sont autorisés par les agences de régulation. Ce qui vous intéresse le plus, c'est la catégorie donc la plus utilisée, ce sont les émulsifiants.
Ouais, tout à fait. Alors, avant de parler des additifs, je pense que c'était peut-être important aussi de mentionner les objectifs en fait de cette transformation.
Mais pourquoi est-ce qu'on transforme?
Moi, j'en vois trois principalement. Je pense que vous pourrez compléter si je me trompe, mais il y a déjà principalement une idée de conservation des produits, d'allonger la durée de conservation des produits. Il y a tous ces aspects aussi des propriétés organoleptiques, donc améliorer la palatabilité, la texture, le côté crémeux pour les crèmes dessert, etc.
On mange d'abord avec les yeux. Les industriels le savent.
Exactement. Et la troisième raison, qui on a peut-être un petit peu tendance à l'oublier des fois, mais en fait, je pense qu'elle est aussi très très importante, c'est aussi les besoins des consommateurs. Il y a aussi plein de procédés de transformation qui sont là pour assouvir les besoins des consommateurs, et notamment, on peut penser à tous les produits allégés, tous les produits qui ne contiennent plus de matière grasse. C'est principalement pour suivre les désirs des consommateurs, et c'est très souvent des produits, quand on enlève la matière grasse, il faut remplacer par autre chose, il faut mettre en place des nouveaux procédés. On peut trouver, par exemple, c'est assez original, mais on peut trouver des crèmes fraîches à 0% de matière grasse, donc c'est quand même assez particulier. Et du coup, bien sûr, quand on enlève cette matière grasse, il faut remplacer par des additifs. Donc voilà, un petit peu les trois objectifs, selon moi, de la transformation. Et du coup, pour ces trois objectifs-là, on a en effet besoin d'utiliser des nouveaux procédés, et notamment d'utiliser des additifs. Alors, il y en a plusieurs, il y a plusieurs catégories, il y en a 300 qui sont utilisés. On pense souvent aux colorants, parce qu'on les voit, on pense souvent aux édulcorants, parce qu'on les sent en bouche, le goût sucré. Mais en fait, il y en a vraiment énormément. Il y a aussi des additifs qui sont là pour améliorer la texture. Par exemple, dans certaines poudres, on va rajouter des additifs pour éviter que la poudre s'agglomère, des anti-agglomérants, etc. C'est très très complexe. Et parmi tous ces additifs, la catégorie qui nous intéresse beaucoup et qui est la catégorie la plus utilisée par l'industrie agroalimentaire, ce sont en effet les agents émulsifiants, qui sont là pour participer à la texture des produits et permettre le mélange des matières grasses et des matières non grasses.
C'est tout ce qui est utilisé aussi pour les sauces, hein, c'est ce qui permet de maintenir cette texture.
Exactement.
Mélanie Deschasseaux, dans tout ça quand même, les enfants sont particulièrement ciblés. On pense aux confiseries, aux biscuits, aux céréales soda, yaourt à boire. C'est aussi une cible principale.
Mais c'est vrai que de nombreux produits, en fait, une des caractéristiques des aliments ultra transformés, c'est aussi l'ultra marketing. Ce sont des produits qui sont vraiment marketés avec beaucoup de couleurs, des personnages attrayants, qui sont faits pour, qui appellent à l'achat, à la consommation, voire à la surconsommation. Et donc, en effet, dans les rayons, notamment des céréales du petit déjeuner, des gâteaux, parfois on voit plus la mascotte sur le paquet que l'aliment en lui-même. Et dans ces produits, il y en a quand même une bonne majorité qui entrent dans cette catégorie des produits ultra transformés. Ils sont aussi par ailleurs très riches en sucre, en gras, etc. Donc c'est des choses qui sont très peu intéressantes d'un point de vue nutritionnel et qui en plus sont ultra transformées, qui peuvent contenir de nombreux additifs, et ça pose vraiment question sur, d'un point de vue sécurité sanitaire, sur les effets santé sur nos enfants.
Alors sur quels critères la recherche scientifique s'appuie-t-elle pour déterminer si un aliment donné a une influence ou non sur la santé ? Reste à l'écoute, on y vient.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
C'est beau ça, hein ? Bon, si je puis dire, alors je vous demande maintenant de formuler un jugement sur ces produits.
Mais c'est infect ! C'est absolument innommable ! Ils ont voulu m'empoisonner ! C'est pas de la nourriture.
Exact. Ces produits viennent de chez vous. Et des millions de personnes les consomment chaque jour.
Impossible, monsieur. Absolument impossible.
On les a pris dans votre usine il n'y a pas une heure.
C'est faux.
C'est vrai. Et d'ailleurs, vous êtes au courant.
Un clin d'œil, l'aile ou la cuisse de Claude Zidi, en direct sur France Culture, car en compagnie de Mélanie Deschasseaux, Benjamin Alès et Benoît Chassin, nous nous posons cette question. Quels sont les risques sur la santé de la consommation d'aliments ultra transformés? On vient de déterminer que sont ces aliments, comment ils sont justement transformés par les industriels. Il y a une classification qui nous vient du Brésil. Les épidémiologistes brésiliens ont proposé la classification NOVA, nouveau en portugais, qui est développée à partir de 2010. C'est loin la classification la plus utilisée dans la communauté scientifique. Benjamin Alès, quels sont justement les quatre groupes de ces classifications? Ça va de NOVA 1 à NOVA 4, et si vous avez des exemples justement pour illustrer ces différents groupes.
Alors NOVA 1, ça va être tous les aliments qui sont du peu ou pas transformés, ou parfois aliments bruts, par exemple des fruits et légumes frais ou très peu transformés, la viande, le poisson, les œufs, etc. NOVA 2, ça va être les ingrédients culinaires qui sont utilisés, comme la farine, les huiles, le sucre en poudre ou en morceaux, enfin voilà. NOVA 3, ça va être des aliments qui vont être, transformés du coup, dans lesquels on va pas retrouver une grande quantité d'additifs, où les processus de transformation vont être moindres comparés à NOVA 4, où là on va être sur de nombreux processus de transformation, nombreux ajouts souvent d'additifs qui vont de pair, même si ce n'est pas très clair pour NOVA 4, mais en tout cas c'est souvent le cas, ce qu'ils sont souvent ensemble, ces deux aspects. Et dans les additifs, souvent c'est des additifs qu'on va ajouter qui sont parfois, ce qu'on disait, certes nécessaires, mais aussi cosmétiques. On dit cosmétiques, c'est-à-dire par exemple, dont certains ont été même supprimés, comme le TiO2, qui voit des additifs qui vont rendre les aliments très blancs, dont on n'a pas forcément besoin pour le coup, mais qui vont être un besoin généré plutôt pour répondre à des attentes un peu d'esthétique sur lesquelles on n'est pas sûr que les consommateurs le veuillent, quoi, à la fin.
Mélanie Deschazeaux.
Oui, donc cette question en effet juste pour compléter, NOVA 3, en fait, on considère que c'est le mélange entre NOVA 1 et NOVA 2, et finalement c'est ce qu'on fait tous à la maison dans nos cuisines quand on prépare des plats. On peut penser aussi par exemple au pain, au fromage, etc. Tout ça, c'est des aliments qu'on va appeler transformés. Comme on le disait tout à l'heure, la transformation n'est pas forcément un problème. Et ensuite on a la catégorie 4 qui est donc l'ultra transformation, et qui a recours justement à ces additifs cosmétiques. Et pour compléter là-dessus, en fait, il y a certains additifs qui sont là plutôt pour assurer la sécurité sanitaire du produit, notamment au niveau microbiologique, par exemple les conservateurs. Donc certains conservateurs peuvent être utilisés sans classer le produit NOVA 4, mais de très nombreux additifs sont là l'arôme, le goût, la texture, et ne sont pas indispensables, donc ils sont cosmétiques.
Voilà, donc les yaourts, ils peuvent être NOVA 3 ou 4 en fonction de s'ils ont des texturants ou non, par exemple.
Oui, exactement, les yaourts nature classiques vont être classés NOVA 3 sans souci, même si on les achète au supermarché en fait. Hein. Tous les aliments industriels ne sont pas NOVA 4, c'est important de le rappeler, ce que rappelait Benjamin tout à l'heure par rapport à la boîte de conserve par exemple. Le yaourt, s'il a eu des ajouts d'émulsifiants, s'il a des édulcorants, si justement il est 0% de matière grasse mais avec des émulsifiants pour remplacer pour la texture, les arômes, les colorants pour les produits notamment pour les enfants. Donc le rayon des crèmes dessert est un très bon exemple d'ultra-transformation aussi. Donc voilà, il y a vraiment de tout dans les rayons et il faut faire attention à la liste des ingrédients.
Alors ça, voilà pour la classification. Maintenant, côté études observationnelles, on a une dizaine d'études, hein, bien plus d'ailleurs d'études épidémiologiques observationnelles qui ont exploré ces liens. Mais alors, le souci, c'est que ce ne sont que des associations, hein, des corrélations. Et corrélation ne veut pas dire causalité, Benjamin Alès.
Oui, tout à fait. En fait, les études observationnelles ont une certaine limite, c'est qu'on ne contrôle pas tous les paramètres de vie des personnes qui sont dans ces études. C'est pas comme si, par exemple, dans certaines études cliniques, qui sont à l'inverse, on va dire pas l'inverse, mais pardon, des études complémentaires, là, on va pouvoir, par exemple, à l'hôpital, suivre un groupe de personnes, voir vraiment tout ce qu'ils font, leur donner une molécule, par exemple, un médicament, tracer ce médicament dans leur sang, et puis voir, par exemple, comment évolue dans l'organisme ce médicament, etc. L'alimentation, c'est tellement vaste, tellement de substances, etc. C'est très compliqué de mettre en place ce type d'études-là cliniques. Et en plus, après, il y a des questions éthiques. Par exemple, nourrir des personnes avec uniquement des aliments dits ultra-transformés, dont certains, on le sait, quand on en mange trop, il peut y avoir des risques pour la santé. Notamment, par exemple, ne serait-ce que le surpoids et l'obésité. Du coup, ça pose des questions éthiques qu'on ne peut pas résoudre comme ça. Donc, c'est important de croiser avec plein d'approches et de bien explorer tous les mécanismes. Donc, c'est-à-dire d'avoir des études aussi chez l'animal, là où on peut faire un peu plus de choses, en respectant aussi des conditions d'éthique, bien sûr. Et aussi de comprendre les mécanismes, par exemple, au niveau du microbiote, hyper important aussi, une énorme voie qu'on doit explorer encore sur ce sujet, sur lequel travaille beaucoup Benoît notamment, et d'autres équipes aussi. Et du coup, c'est vraiment important de bien croiser du coup tous les types d'études et de ne pas prendre une seule étude ou un seul type d'étude. Et souvent, ce qu'on voit, on entend, ou qu'on voit même sur quand on lit des articles, des fois, un peu partout, hein, c'est les gens vont prendre deux études et vont dire, regardez, association, ça y est, il faut bannir tous les aliments ultra-transformés, ou à l'inverse, des effets positifs, les gens vont tirer des grandes conclusions à partir d'une ou deux études, et c'est pas du tout ce qui est fait dans les travaux d'expertise des agences notamment, et aussi des scientifiques, quand ils font des analyses d'études, ils regroupent toutes les études, et ils étudient bien l'ensemble des preuves qu'on a pour établir un niveau de preuve, et c'est pas une étude qui va faire... Voilà,
petit point méthodologique assez important avant de poursuivre. Vous, Mélanie Dechasseaux, vous avez analysé les liens entre aliments ultra-transformés, maladies chroniques et mortalité au travers d'études réalisées sur la cohorte Nutrinet Santé. Alors peut-être un mot sur cette cohorte qui a été lancée en 2009 en France et qui comporte actuellement environ 180 000 participants. Quelle est la force de cet outil ?
Donc la cohorte Nutrinet, c'est une cohorte française qui a été donc lancée en 2009. Elle est entièrement basée sur Internet. Donc les participants s'inscrivent et ensuite remplissent un certain nombre de questionnaires donc très régulièrement, notamment tous les ans sur leur mode de vie, leurs caractéristiques sociodémographiques, leur activité physique, la santé, donc la prise de médicaments, la survenue de pathologies et évidemment l'alimentation qui est la spécialité de cette cohorte qui vise à étudier les liens entre nutrition et santé. Sur l'aspect alimentaire, en fait, la force de la cohorte Nutrinet, c'est d'avoir recours à des questionnaires qu'on appelle des enregistrements de 24 heures dans lesquels les personnes vont lister tous les produits qu'elles ont consommés sur une journée et y compris donc la quantité consommée, le moment de consommation, mais aussi si le produit était fait maison ou issu du traiteur, de la restauration ou du commerce. Et si le produit était issu du commerce, on demandait initialement la marque et maintenant on a un lien avec la base de données Open Food Facts qui permet de scanner le code-barre directement du produit. Donc les personnes peuvent scanner le code-barre du produit, ce qui fait un lien directement avec cette base de données collaborative Open Food Facts et qui permet d'avoir des informations sur tout un tas de caractéristiques de l'aliment, y compris la liste des ingrédients et donc des additifs, ce qui nous a permis donc de mener des travaux ensuite sur les liens entre consommation, exposition aux additifs et santé.
Oui, parce que c'est important quand on étudie les additifs, parce qu'un même produit peut avoir une composition d'additifs différente en fonction de la marque. Vous souhaitiez compléter, Benjamin?
Oui, Mélanie a déjà dit l'essentiel, mais je voulais rajouter que dans Nutrinet, on a la chance, et d'ailleurs on les remercie au passage, s'il y en a qui écoutent, d'avoir des Nutrinotes fantastiques, depuis 2009, nous envoient chaque année des informations sur alimentation. C'est une richesse incroyable de données sur laquelle de très nombreuses chercheuses et chercheurs travaillent aujourd'hui. Donc encore merci à eux s'ils nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a qui écouteront, c'est sûr. Et je voulais juste préciser...
C'est toujours ouvert en plus pour ceux qui veulent participer.
C'est toujours ouvert, oui, au recrutement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à faire avancer la recherche nutrition santé, n'hésitez pas à aller sur notre site. Et grâce à ça, on a aussi pu... on a une équipe en interne aussi qu'on remercie, de diététiciennes, diététiciens, des gens qui ont fait des études en ingénierie agroalimentaire, dont les chercheurs aussi de l'équipe, ou des gens qui ont fait des études aussi en épidémiologie. Moi, j'ai une formation aussi de diététicien à la base, en plus d'être chercheur. Et grâce à toutes ces expertises, on a fait une classification NOVA pour Nutrinet, qui a pris beaucoup de temps. C'est pas un travail qu'on a fait comme ça sur un coin de table. Souvent, c'est une critique qui est faite des études sur NOVA, c'est que les méthodologies sont faites n'importe comment, etc. Nous, en tout cas, c'était pas le cas. On avait de nombreux experts qui ont travaillé tous ensemble pour faire cette classification, car il y a des choses très importantes à considérer, les additifs, mais aussi, par exemple, la culture alimentaire du pays. Au Brésil, le pain est toujours transformé, puisque les Brésiliens mangent beaucoup des pains industriels en sachets, emballés comme des pains de mie, très sucrés, etc. En France, on a encore la baguette, on a encore beaucoup de boulangeries dans toutes nos villes et nos villages en France. Il y a encore certes des pains industriels qui existent, qui sont beaucoup moins riches en sucre que ceux du Brésil. Donc il faut aussi penser à tout ça, adapter, travailler, c'est un gros boulot interne aussi.
En effet, comme vous dites, il y a le Brésil, puis on pense aussi aux États-Unis, ou en Angleterre, Canada, où là c'est 60% de l'alimentation qui est ultra transformée. Vous souhaitiez réagir, Benoît Chassin?
Ouais, juste pour compléter que ces études observationnelles sont hyper hyper importantes pour comprendre justement les liens, les associations entre alimentation et potentiellement certaines maladies. Et juste pour rajouter, on parle ici de maladies chroniques et de maladies complexes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'un aliment X va conduire en une semaine une pathologie Y, c'est beaucoup plus complexe que ça, donc d'où l'intérêt de ces cohortes longitudinales avec un nombre le plus conséquent possible de patients, de participants qui vont être suivis sur des dizaines et des dizaines d'années, puisqu'on parle de maladies telles que certains cancers, l'obésité, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui mettent des années à se mettre en place, d'où la complexité un petit peu d'étudier ces interactions entre alimentation et santé, notamment intestinale.
Mélanie Deschassot, justement, grâce à ces cohortes, quels sont les résultats des études observationnelles? Quels sont justement ces liens qui sont apparus avec ces études?
Donc nous, dans la cohorte Nutrinet Santé, on a été parmi les pionniers dans les études qu'on appelle prospectives sur le lien entre la consommation d'aliments ultra transformés et la survenue de maladies chroniques. C'est-à-dire qu'on a l'exposition avant la survenue de l'événement. On a observé donc dès 2018 qu'une plus grande part d'aliments ultra transformés était associée à un risque accru de cancer. Et ensuite, on a mené d'autres travaux qui montraient un risque accru également de maladies cardiovasculaires, de diabète, de surpoids et d'obésité, également de symptômes dépressifs, de mortalité. Donc on a vraiment ces résultats dans la cohorte Nutrinet qui n'est pas toute seule, puisqu'il y a aujourd'hui plus de 80 études qui sont menées donc depuis globalement une dizaine d'années sur le sujet et qui, justement, ont travaillé sur le sujet des aliments ultra transformés, donc des études qui sont menées sur tous les continents, dans tous les pays, et qui retrouvent des associations qui concordent globalement sur le fait que les aliments ultra transformés, une plus grande proportion d'aliments ultra transformés dans l'alimentation, va être associée notamment à des effets néfastes au niveau cardio-métabolique, au niveau de la mortalité, mais aussi au niveau des troubles de santé mentale comme l'anxiété ou la dépression.
Mais les troubles de santé mentale, en effet, c'est ce qui apparaît dans les analyses menées sur une cohorte britannique et qui est parue dans la revue nutritionnelle Neuroscience en 2023. La santé mentale n'est pas en reste, Benjamin Alès.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet très important aussi, et je rebondis sur un commentaire qui a été fait tout début par Benoît. Il a listé très précisément tous les besoin qu'on a justement de la transformation pour nous, mais il y a un besoin, c'est vrai, il y a des besoins, pardon, des fois sur lesquels on pourrait se questionner. Alors nous, des scientifiques, on se questionne, on n'affirme pas si c'est blanc ou noir, on est là pour questionner les choses. Et par exemple, sur le côté 0%, le fait d'enlever les matières grasses, d'enlever le sucre, on sait très bien quel est le public qui va être visé par ça, c'est 99% les femmes. Il y a qu'à voir le packaging, souvent c'est des couleurs roses, mauves, enfin voilà, et les publicités, c'est toujours des femmes qui mangent ces produits-là. Il y a le travail excellent d'une journaliste, d'ailleurs une de vos consoeurs, Nora Boisani, qui parle beaucoup de ça, sur les biais sexistes, notamment dans le marketing alimentaire. C'est quelque chose de documenté, même scientifiquement. C'est pas que du journalisme, là, pour le coup, qui est déjà très riche. Il y a aussi de la science qui montre ça. Et du coup, c'est vrai que ça pose des questions sur ces besoins-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller sur le 0%, le sans sucre et tout ça, notamment pour des personnes qui sont pas très bien déjà, puisque l'ultra-transformation, on le voit, le fait de manger, pardon, beaucoup de produits ultra-transformation transformés est associé à des troubles de santé mentale. On n'a pas encore une fois, c'est pas une preuve directe, mais ça pose des questions au niveau scientifique en termes de bien-être des gens qui vont vers ces produits-là aussi, et notamment les produits qu'on disait allégés, etc. En tout cas, si on recroise tout ça, il y a des questions, je pense, à résoudre encore au niveau de la science.
Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce lien entre consommation d'aliments ultra-transformés et conséquences néfastes sur la santé? Quels sont les mécanismes physiologiques en jeu? On y vient après cette enca musicale.
I'll have a hot dog and a hamburger. Hot dog and a hamburger.
The 4-minute warning, it'll wake me with a bleep, so I never
Fast food de The Hypothetical Prophets en direct sur France Culture. Nous parlons des effets sur la santé des aliments ultra transformés en compagnie de nos trois invités du jour. La chargée de recherche INSERM au sein de l'équipe Le Rennes du CRES, Mélanie Deschasseaux, qui est aux côtés également de l'épidémiologie chargée de recherche INRAE, Benjamin Alès, ainsi que Benoît Chassin, directeur de recherche INSERM et chef du groupe Interaction Microbiote Hôte à l'Institut Pasteur. On vient de voir que la consommation d'aliments ultra transformés est associée à un risque de cancer du sein, de cancer général, de maladies intestinales inflammatoires, spécifiquement de la maladie de Crohn. On a évoqué ça il y a quelques instants. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces effets néfastes, Mélanie Deschasseaux, c'est que les aliments ultra transformés sont en moyenne de moins bonne qualité nutritionnelle que les autres aliments ?
Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce lien entre aliments ultra transformés et santé. Donc là, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que voilà, les études ont tendance à montrer qu'il semble y avoir un problème avec ce type d'aliments, mais ces aliments regroupent des aliments qui ont des caractéristiques assez diverses. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant, quelles sont les caractéristiques de ces aliments qui posent problème. Donc il y a plusieurs mécanismes possibles. Donc comme vous le disiez, ce sont des aliments qui ont une moins bonne qualité nutritionnelle. C'est des aliments qui sont plus riches en sucre, en gras, en sel, etc. Donc ça, on sait que ça va avoir un effet néfaste sur la santé. Mais les études qu'on mentionnait ont pour la plupart pris en compte la qualité nutritionnelle des aliments, évidemment, pour essayer de faire la part des choses entre ces deux dimensions. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'association reste. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Donc il y a vraiment cette complémentarité des facettes, comme je le disais tout à l'heure, entre la qualité nutritionnelle d'une part et la transformation d'autre part. Sur l'aspect transformation, donc plusieurs hypothèses mécanistiques. Les effets sur de la matrice des aliments, donc avec des impacts sur la vitesse d'ingestion. On peut avoir de la surconsommation, on peut avoir de la vitesse aussi, de la digestibilité. Ça va impacter la digestibilité, ça peut impacter les résidus qui vont être disponibles pour le microbiote. On peut avoir aussi donc le contenu en additifs qui pose question sur les impacts sur la santé. Les aspects contamination au moment de la transformation, contamination liée au contact avec les matériaux d'emballage, par exemple, en particulier si on fait réchauffer notre barquette plastique au micro-ondes. Donc il y a vraiment de très nombreux mécanismes qui sont en jeu et pour lesquels on a besoin vraiment d'études maintenant pour comprendre ce qui se passe et essayer de faire la part des choses entre ces différents éléments pour savoir quels sont les éléments à limiter, à réguler, à interdire.
Oui, parce que on a, comme vous parlez justement de contamination, Benjamin Alès, on a des substances qui sont issues également des emballages alimentaires et qui peuvent contaminer ces aliments.
Oui, tout à fait. Il y a déjà des transferts qui peuvent se faire des emballages vers les aliments. Par exemple, tout ce qui est en plastique, même les bouteilles en plastique et même les emballages cartonnés recyclés. Souvent, il y a des transferts de résine, de choses qui sont contenues dans ces aliments. Ça, c'est quelque chose qu'on a pour l'instant pas très bien estimé. Et il y a eu une autre contamination qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle les agents technologiques. Par exemple, quand on transforme un aliment dans une usine, on va devoir utiliser des lubrifiants, des choses pour que l'aliment, par exemple, si c'est une chair, quelque chose qui est mal mou, va glisse bien dans les machines, etc., comme des huiles. Et ces huiles-là peuvent se retrouver dans les aliments. Et il y en a qui sont pour lesquels on a des doses maximum de toxicité à ne pas dépasser, qui sont très réglementées. Et il n'y a pas longtemps, l'EFSA, donc c'est l'Institut européen qui a justement alerté sur la sécurité sanitaire et toxicologique des aliments, a émis des alertes pour les huiles minérales en disant attention, on a refait des dosages dans certains produits, notamment même les alternatives végétales. Alors c'est pas pour les dénoncer parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout de substances comme ça à l'intérieur. C'est pas toutes les alternatives, mais par exemple les steaks végétaux ou les saucisses végétales plutôt, pardon. Là c'était pour les saucisses. Il y a des huiles dedans à des niveaux qui dépassent les limites. Attention quoi. Donc il y a vraiment aussi c'est ce qu'on appelle de manière très large l'exposome, c'est-à-dire toutes les substances auxquelles on va être exposé en dehors de l'aspect nutritionnel qui sont aussi à prendre en compte, et notamment au niveau de la transformation, on sait qu'on rajoute une couche dans l'exposome avec toutes ces substances qu'il faudrait prendre en compte dans les études nutrition santé.
Et pour couronner le tout, il y a la question et le risque de l'effet cocktail qu'on doit aussi prendre en compte, Mélanie Deschassot.
Oui, donc là, en effet, on parlait des additifs tout à l'heure. En fait, les additifs, ils subissent un processus d'autorisation au niveau européen, donc notamment par l'EFSA. Mais ces processus d'autorisation déjà font appel à des critères toxicologiques, à certains critères bien précis, et ne prennent pas forcément en compte l'ensemble des impacts santé possibles de ce type de produits. Donc, comme par exemple l'impact sur le microbiote qui va être pas pris en compte. Cette évaluation peut avoir des angles morts et ne prend pas en compte aussi les nouveaux travaux épidémiologiques qui sont faits depuis quelques années. Mais en tout cas, bon, c'est autorisé. Et aussi, ces additifs en fait, vont être analysés un par un. Or, dans les aliments qu'on consomme, regardez la liste des ingrédients chez vous des produits. On est rarement exposé à un seul additif. Déjà, au sein d'un aliment, on peut avoir plusieurs additifs qui sont concomitants. Et au sein d'un régime alimentaire, en fonction de ce qu'on consomme, on va être exposé à plusieurs additifs simultanément. Si on prend un goûter avec des biscuits industriels et du coca, on va avoir un certain cocktail d'additifs qui va se retrouver au sein de l'organisme, et on a besoin de mieux comprendre les interactions et les effets cocktails de ce cumul d'exposition, notamment aux additifs. Sans parler des interactions avec les autres substances des aliments.
Typiquement, les études sur l'effet des additifs sur le microbiote, ce sont l'objet de vos recherches, Benoît Chassin.
Oui. Alors, parmi tous ces mécanismes pouvant lier ultra-transformation et santé, nous, on travaille plus particulièrement sur le microbiote. On n'est pas les seuls. Il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent sur ces interactions-là. Alors, pourquoi les interactions avec le microbiote? En fait, toutes les pathologies qu'on mentionne depuis le début de cette émission, ce sont des pathologies pour lesquelles on sait que le microbiote intestinal joue un rôle. L'obésité, le diabète, certains cancers, les maladies métaboliques, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn. Toutes ces pathologies, on sait qu'elles ont une composante microbiote. On sait que le microbiote joue un rôle dans ces pathologies. Et du coup, nous, on s'intéresse vraiment au lien possible entre alimentation et ultra-transformation et le rôle potentiel sur ce microbiote, avec deux axes principaux. C'est qu'est-ce qui peut manquer dans l'alimentation ultra-transformée qui pourrait justement jouer un rôle sur notre microbiote, comme par exemple l'absence de fibres ou l'absence de certains aliments qui seraient importants pour la bonne santé de notre microbiote. Et inversement, qu'est-ce qui pourrait être en trop rajouté dans ces aliments transformés qui pourraient avoir un rôle négatif sur nos microbiotes, et notamment tous ces additifs. Tous ces additifs, on sait qu'ils ne sont pas toxiques pour nous, pour nos cellules. Ils sont testés avant d'être utilisés, comme le disait Mélanie. On sait qu'ils n'induisent pas de cancer, donc c'est pas eux directement qui vont induire le cancer. Mais par contre, on ne les étudie pas à large échelle pour leur effet sur le microbiote, et nous, c'est exactement ce qu'on fait au laboratoire.
Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, qui concernent 10 millions de personnes dans le monde et environ 250 000 personnes en France, maladies dont on ne guérit pas. Comment étudiez-vous plus précisément l'impact de ces additifs sur notre microbiote? On poursuit avec le reportage du jour. Parmi les additifs alimentaires dont on connaît la nocivité, le CMC, plus connu sous le terme de E466, qui a été très bien documenté pour ses liens avec l'apparition de troubles intestinaux. Alors, pour comprendre comment on étudie la sensibilité à cet agent émulsifiant, nous sommes allés à l'Institut Pasteur rencontrer l'une de vos collègues, Benoît Chassin, et c'est avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha, oui, auprès d'Héloïse Ritter qui est en post-doctorat. Alors dans son laboratoire, elle explore le génome du microbiote de patients ayant consommé des aliments contenant cet émulsifiant, qu'on trouve à la fois dans les brioches industrielles, le pain de mie, mais aussi les glaces et même certains laits végétaux. Alors si les liens entre leur consommation et l'émergence d'inflammation ou maladies chroniques sont bien connus, l'énigme persiste sur la sensibilité. Pourquoi certaines personnes sont tolérantes à cet additif et d'autres non? En résolvant cette question, l'équipe est parvenue à un modèle de prédiction de sensibilité qui ouvre la voie vers une approche de nutrition personnalisée.
Nous avons ici un premier laboratoire avec différents échantillons de microbiote humain. Nous avons également du coup des échantillons de microbiote murin. Lorsqu'on veut vérifier la sensibilité, on ne va pas la tester évidemment chez les patients, on va d'abord passer sur un modèle murin. Nous avons ici du coup un cytomètre en flux qui nous va permettre de trier par exemple certaines bactéries qui vont potentiellement être impliquées dans les différentes réponses inflammatoires.
Je suis Héloïse Ritter, je suis postdoc à l'Institut Pasteur dans l'équipe de Benoît Chassin. Son équipe s'intéresse aux microbiotes et plus particulièrement aux interactions microbiotes et alimentation.
Si on fait un petit historique, en 2015 déjà, il y avait pu mettre en évidence certains phénomènes.
Alors, en 2015, c'était sur des modèles murins. Puis, il a mené ensuite une étude clinique où, cette fois, il est passé donc, sur des patients. Donc, c'était des patients qui étaient à l'hôpital pendant 11 jours. Et pendant 11 jours, on a eu donc, deux groupes de patients. Un est sur ces deux groupes, donc ils ont été suivis. Ils ont eu exactement la même chose, la même alimentation, le même suivi. La seule différence, en fait, résidait dans le dessert qu'ils ont eu. Un groupe de patients avait un additif alimentaire dans leur muffin. Et donc l'additif alimentaire qui a été rajouté, c'est le carboxyméthylcellulose.
Le fameux E466.
Exactement, qui est utilisé en France. Il fait partie des 50 additifs les plus consommés en France et il est d'autant plus consommé aux États-Unis.
Ce qu'il a pu mettre en évidence aussi, c'est une variabilité de sensibilité chez les patients, enfin sur les sujets testés, ceux qui ont une bonne résistance, qui ne sont pas altérés dans leur microbiote et ceux qui développent des inflammations.
Exactement, il a su montrer que nous n'étions pas tous égaux en fait, face aux additifs alimentaires et que cela dépendait du microbiote. En effet, sur le groupe des patients qui ont été exposés au CMC, deux parmi tous les patients ont montré une altération de leur microbiote intestinal et potentiellement un début d'inflammation de l'intestin.
Donc ce qu'on cherche à faire, c'est de déterminer, voire de prédire en fait, si un patient ou un autre va être plus susceptible d'avoir des problèmes en fonction de la consommation de ces additifs.
Oui, exactement, parce que notre but ultime, en fait, c'est de la nutrition personnalisée, surtout sur des personnes qui vont être sujets à développer des maladies chroniques de l'intestin. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup d'altérations et beaucoup de réponses différentes selon les personnes, et on essaie de comprendre le pourquoi de la chose, et ensuite de pouvoir proposer potentiellement une nutrition qui va leur être adaptée. Donc là, au laboratoire, on utilise le microbiote in vitro, qui est du coup un système qui permet de reproduire le microbiote des patients et en fait on va pouvoir ensuite inoculer et même injecter différents produits, comme ça on saura la réponse de ces patients sur les additifs alimentaires.
J'ai vu qu'on décelait des signatures dans ce microbiote, enfin de l'ADN de souris qui permettait de justement de participer à cette personnalisation.
Oui, c'est ce que nous avons démontré du coup dans notre dernier papier qui vient d'être publié, où on est capable de prédire donc la réponse d'un patient, et donc plus particulièrement de son microbiote, à un additif donné, donc le carboxyméthylcellulose. Et donc ça, en fait, ça, c'est assez chouette parce que ça nous donne une réponse en 2 semaines. En 2 semaines, on peut dire, ok, cette personne est sensible ou résistante à cet additif alimentaire, donc potentiellement, on peut lui dire, bah, vous pouvez continuer à le consommer, ou alors, vous pouvez le retirer de votre alimentation. 2 semaines, c'est bien, mais peut-être que c'est un petit peu long, surtout qu'il faut du coup tout ce système de sous-chambre anaérobique. À côté de ça, on a mené ce qu'on appelle une étude dite métagénomique. Métagénomique, c'est quoi ? C'est littéralement, on a pris une photo et ensuite, on peut zoomer sur cette photo pour déterminer, ok, c'est cette fonction qui va être impliquée dans la réponse. Et ce qu'on a pu voir, c'est que donc on a pu identifier des microbiotes qui étaient sensibles à l'additif alimentaire, des microbiotes qui étaient résistants et on voulait savoir pourquoi, comment on peut définir la sensibilité. Et en fait, on s'est rendu compte que cette sensibilité était définie par le microbiote dit basal, c'est-à-dire le microbiote avant exposition au CMC. C'est pas le CMC, c'est pas le carboxyméthylcellulose qui va induire la sensibilité, cette sensibilité on la porte déjà. Donc là ici on est sous la chambre anaérobique, sans oxygène, nous avons ici tout ce qui va être thermomètre et chauffage, parce que voilà on doit être à
37 degrés.
Exactement. Nous n'avons pas de système en cours, mais donc là, Maëva est en pleine préparation pour en faire.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, hop. Donc ça, c'est littéralement les cicupules que nous utilisons pour le MBRA. Très souvent,
le
MBRA, pardon, qui est le microbiote in vitro. Donc, très souvent, on met un donneur par barrette. Donc, on va mettre le milieu qui va mimer le milieu intestinal. Et ensuite, on va injecter les échantillons de fesses et grâce à une étude longitudinale, on va être capable de suivre comment le microbiote se comporte. Et du coup, si on fait un vacuum, le vacuum, c'est pour être sûr de vider l'air. Donc, il faut juste qu'on allume la bouteille. Donc là, c'est bien écrit aérobie, donc ça veut dire qu'on a de l'oxygène. Et donc si, par erreur, j'ouvre ici, j'injecte de l'oxygène et donc c'est un peu problématique.
Et donc là, c'est parti pour 5 cycles pour vider l'oxygène et être totalement en anaérobie. C'est-à-dire qu'on fait rentrer le matériel ici, on met en anaérobie et après, on peut ouvrir la trappe et venir rentrer tout ce qui est échantillons, seringues, etc. Voilà. Là, on a réussi à montrer qu'on était capable de prédire la sensibilité d'un microbiote donné au carboxyméthylcellulose. Mais voilà, le carboxyméthylcellulose est utilisé en France, mais ce n'est pas l'additif le plus consommé. Par exemple, l'acide citrique, tout ce qui est lécithine de soja, et, ou encore les carragénanes qu'on va retrouver par exemple dans la crème fraîche, dans le pain de mie, dans les glaces. Et donc là, le plan, ça va être de déterminer ce qu'il en est pour ces additifs alimentaires les plus consommés en France. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que au sein d'une journée, on ne consomme pas qu'un seul additif alimentaire, ni que d'un seul type. Et donc là, on essaie de travailler sur un effet dit cocktail et de déterminer l'effet combiné en fait, de tous ces additifs consommés en une journée par une personne lambda et déterminer du coup s'ils vont également avoir un effet et surtout à des doses réelles.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur votre application préférée, bien sûr. Mélanie Deschassot, une réaction à ce que vous venez d'entendre ?
Oui, donc moi ça me fait penser à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la nécessaire complémentarité des approches en recherche et donc nos études épidémiologiques qui sont nécessairement complétées par des approches plus expérimentales comme celles qui sont menées dans le reportage qu'on vient d'écouter. Et justement, nous dans la cohorte Nutrinet Santé, donc déjà d'une part, on a observé en effet des effets délétères également de ce CMC, notamment en lien avec le risque de maladies cardiovasculaires. Donc ça corrobore un peu, entre épidémiologie et sciences expérimentales, des résultats de recherche, l'effet néfaste en tout cas de ce produit. Et nous, dans la cohorte Nutrinet, on est en train de faire un volet microbiote à l'heure actuelle où on va justement chercher à étudier l'impact de l'exposition aux additifs sur le microbiote. Et c'est un volet qui est mené en collaboration avec l'équipe de Benoît Chassin. Et on va chercher justement à reproduire dans une certaine mesure les résultats qui peuvent être observés en laboratoire paillasse, du coup plutôt nous au niveau épidémiologique, et on se sert aussi de cette collaboration pour par exemple proposer justement des cocktails d'additifs qui vont correspondre à ce qui est observé nous chez nos participants.
Pour revenir sur ces études de microbiote, Benoît Chassin, vous avez clairement montré que les émulsifiants modifient à long terme la qualité de notre microbiote intestinal. Ces émulsifiants diminuent notre diversité microbienne et favorisent les mauvaises bactéries. Ça, vous avez commencé d'abord à travailler avec des souris, avec cette étude parue dans Nature en 2015.
Ouais, donc on se rend bien compte déjà de la nécessité de la complémentarité des approches
et du temps long.
La chronologie voilà, des choses. Donc la toute première étude sur les agents émulsifiants et liens avec le microbiote, c'est pile poil il y a 10 ans, c'était en mars 2015. Donc on voit le temps que prend la recherche, où en effet on avait commencé par étudier l'impact de ces additifs sur le microbiote en modèle souris, et c'est là où on avait vraiment observé cette perte de richesse, cet impact sur la composition du microbiote, en lien avec une susceptibilité accrue à développer de l'inflammation intestinale. Ça c'était chez la souris, ensuite on est passé plus sur des microbiotes in vitro humains pour essayer de comprendre un petit peu les mécanismes, voir si c'était la même chose au niveau de microbiote humain, et en effet c'était la même chose. Est venu se greffer à ces observations-là les études épidémiologiques, donc de la cohorte Nutrinet Santé, qui a en effet montré un lien entre ces additifs, les agents émulsifiants et certaines pathologies chroniques. Alors bien sûr, la question qui reste après, c'est et chez l'homme, et des études interventionnelles. Donc on en a publié une il y a quelques années, où ce qu'on avait fait, c'était justement de donner de la carboxyméthylcellulose, cet agent émulsifiant qui nous intéresse particulièrement, à des patients. Et là, on a vu ici aussi qu'on avait des altérations de la composition du microbiote, que tous les microbiotes ne répondaient pas forcément de la même manière, mais on était capable d'observer chez l'homme également que cet agent émulsifiant allait impacter le microbiote avec plus ou moins de sévérité en fonction des patients. Mais on avait aussi cette perte de richesse et de diversité. Alors bien sûr, c'était une étude un peu pilote, c'est-à-dire qu'on avait très peu de participants, on s'intéressait uniquement à la carboxyméthylcellulose, on avait pris des participants sains, donc c'était une première étude. Et là, on a une étude qui est en cours, qui est en collaboration avec nos collègues de Londres, du King's College à Londres, qui est beaucoup plus ambitieuse, où là, on s'intéresse à plusieurs additifs sur le long terme, sur des patients atteints de maladie de Crohn.
200 participants, c'est ça. L'étude, l'essai clinique est fini, mais c'est en phase finale d'analyse.
L'essai clinique est fini, on est en phase finale d'analyse. Alors c'est une étude qui a pris, encore une fois, je ne veux pas rajouter de la complexité à la complexité, mais on a fait face au Covid aussi au tout début de l'étude clinique, etc. Donc ce qu'on a fait ici, c'était en effet de prendre uniquement des participants qui avaient la maladie de Crohn, et on a pris uniquement des participants dont on savait via des questionnaires alimentaires qu'ils étaient exposés à ces additifs, aux agents émulsifiants. La moitié des participants continuaient leur alimentation normale avec cette exposition aux agents émulsifiants. L'autre moitié des participants avaient une alimentation qu'on suivait, ils avaient des recommandations par une diététicienne, ils avaient aussi une application sur leur téléphone pour voir quels produits ils pouvaient consommer ou pas, de manière à éliminer le plus possible ou à diminuer drastiquement l'exposition à ces additifs alimentaires. Et bien sûr, comme le mentionnait Mélanie tout à l'heure, en essayant de contrôler au maximum pour tous les autres paramètres, le gras, le sucre, la transformation, les autres additifs, etc. Et clairement, ce qu'on montre, c'est que voilà, on est en phase finale d'analyse, on n'a pas encore toutes les données, mais ça va clairement dans la bonne direction. Et voilà, très probablement, ce qu'on a observé chez la souris en lien avec l'inflammation se retrouvera aussi chez là.
C'est-à-dire une amélioration de la maladie.
Exactement.
Alors là, on arrive à la fin de cette discussion, Mélanie Deschasseaux. Est-ce que tout ça, ça signifie que il faut réévaluer la dangerosité des nombreux additifs alimentaires qui sont utilisés par l'industrie agroalimentaire?
Alors oui, c'est vrai que là, comme je disais tout à l'heure, l'évaluation elle est faite à l'heure actuelle sur certains critères, mais on voit de plus en plus avec les nouvelles recherches, les nouveaux résultats, tant au niveau expérimental qu'au niveau épidémiologique, il y a certainement une nécessité de réévaluer ces additifs. La problématique, c'est que peu d'études épidémiologiques à l'heure actuelle sont en capacité d'étudier ces additifs alimentaires. Donc nous, dans la cohorte Nutrinet, on a la chance de pouvoir le faire grâce aux données qui ont été collectées, mais à l'heure actuelle, c'est des données qui sont assez uniques au niveau international. Et donc, il y a vraiment besoin de développer ces études et les outils qui sont nécessaires pour faire ce type d'études au niveau observationnel, pour justement augmenter le niveau de preuve, augmenter les résultats qui vont être disponibles, permettant une réévaluation par les agences sanitaires.
Benjamin Alès, pour nos auditeurs et auditrices qui s'interrogent, quelles recommandations on peut faire? Puisque la majorité des aliments ultra transformés, par exemple, ont un mauvais Nutri-Score, mais pas tous.
Oui, c'est vrai qu'on a des outils qui existent. Justement, une des recommandations pourrait être d'utiliser Nutri-Score, qui est quand même un outil très intéressant, mais qui pour l'instant, en effet, ne renseigne pas dans sa forme actuelle sur le degré de transformation. Et il est prévu, en tout cas envisagé, d'ajouter cette information au Nutri-Score à l'aide d'un bandeau noir, donc le côté ultra transformé. On a même dans Nutrinet Santé testé cette proposition auprès de notre panel de volontaires et qui est très très bien reçue. Cette proposition est très bien reçue. Évidemment, c'est qu'une étude dans Nutrinet. Maintenant, il faudrait tester ça et c'est en cours d'ailleurs. Et c'est vraiment quelque chose qu'on espère pour l'information et la transparence sur la qualité des aliments envers les consommateurs et les consommatrices. Et c'est vraiment quelque chose qui est souhaitable. Et aussi, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'évidemment, ces aliments, la question, ce n'est pas dès qu'on en consomme un, ce que disait Benoît, on va être malade demain, quoi. C'est vraiment la question de dose et de proportions que ça prend dans l'alimentation. Et pour cela, c'est vrai que c'est important de quand même si on achète des aliments, comme beaucoup de gens les achètent parce qu'ils sont très utiles pour tout le monde, mais aussi de cuisiner quand même un maximum à côté, de ne pas oublier de manger aussi des produits frais, des fruits et légumes, des choses essentielles. Et c'est vrai que ça pose des grandes questions même d'accès. Maintenant, on a aussi un problème en France qui est la précarité alimentaire. Il y a de moins en moins de gens qui ont accès à des fruits et légumes frais, mais de plus en plus accès à ces produits, les pires souvent en plus, les céréales par exemple sucrées pour les enfants, les boissons sucrées. Il n'y a qu'à se promener même dans certains quartiers de Paris et dans d'autres villes, on voit les enfants avec beaucoup de boissons sucrées à la main maintenant, alors qu'avant, c'était pas des choses qu'on voyait systématiquement dans les rues en France, en tout cas, par rapport aux États-Unis ou d'autres pays. Donc il y a vraiment un gros travail à faire sur la santé publique. Et qu'est-ce que la santé publique, justement? Des fois, on sait pas, c'est ça, c'est aussi informer les gens, donner des moyens et aider les gens à s'orienter, par exemple, vers des professionnels pour faire des choix.
Eh bien, merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on écoute Alexandra Delbo, mais pour prolonger l'écoute, rendez-vous en podcast avec notre épisode édulcorant La note est salée. Rendez-vous le 16 juin pour Science Chrono qui reviendra sur l'histoire de la diététique. Et tout de suite, on quitte la nutrition, on reste dans le domaine de la santé avec une bonne nouvelle qui va à l'encontre des idées reçues. Les technologies numériques ralentissent le déclin cognitif. C'est la chronique avec Science.
Quelle est l'influence des technologies numériques sur le déclin cognitif? C'est un processus naturel et progressif. Avec l'âge, nos capacités mentales diminuent. Tous les domaines de la cognition sont touchés, mais pas au même rythme, ni avec la même précocité. Le langage ou le calcul, par exemple, ne commencent à faiblir qu'après 80 ans. En revanche, des fonctions comme le raisonnement, l'attention ou l'intelligence spatiale, c'est-à-dire la capacité à se repérer dans l'espace et à établir des liens entre les objets, peuvent décliner dès 17 ou 18 ans. Il y a donc un grand écart selon la tâche cognitive sollicitée. Et plus cette tâche est complexe, surtout dans un contexte stressant, plus les performances chutent. C'est donc très variable selon la fonction et aussi selon les individus, évidemment. Mais le mode de vie joue aussi un rôle dans le ralentissement ou au contraire l'accélération de ce déclin. Patrick Lemaire est professeur de psychologie à Aix-Marseille Université et membre de l'Institut universitaire de France.
On peut isoler à peu près trois catégories de facteurs. Les facteurs liés à la santé physique, les facteurs liés à la santé cognitive et les facteurs liés à la santé, on va dire, sociale et affective. Dans les facteurs cognitifs, les facteurs habituels, c'est l'alimentation, l'exercice physique, la sédentarité peuvent être soit des amplificateurs du déclin cognitif. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'exercices physiques, on a un déclin cognitif beaucoup moins important et très nettement retardé. Si vous avez une vie sédentaire, c'est l'inverse. Sur le plan cognitif, on a ce qu'on appelle des modérateurs du déclin cognitif. Le niveau scolaire initial, plus il est élevé, moins le déclin est important. Le type de profession que l'on exerce, si l'on exerce une profession avec des défis cognitifs importants, on va se protéger contre le déclin cognitif lié au vieillissement. Enfin, sur le plan de la santé sociale et affective, le nombre et la qualité des relations sociales est un très bon prédicteur du déclin cognitif. Dès lors que l'on commence à s'isoler sur le plan social, la perte de contact et diminuer la qualité des relations amicales et sociales, on amplifie ce déclin cognitif.
Quand le déclin cognitif est fortement amplifié, on parle de démence. Les faibles performances cognitives influencées par les facteurs que nous venons de citer, mais aussi de certaines pathologies comme Alzheimer, deviennent handicapantes. Mais alors, quelle est la place du numérique et des écrans dans tout cela? Aggrave-t-il le phénomène ou au contraire, contiennent-ils sa progression? De nombreuses études se sont penchées sur cette question et aujourd'hui, la première génération d'individus ayant eu recours aux technologies numériques dans leur ensemble sont arrivés à l'âge où le déclin cognitif devient plus courant. Ce sont les pionniers de l'ère du numérique. Une nouvelle publication parue dans Nature Human Behavior a rassemblé l'ensemble des études existantes en une seule. Cette méta-analyse a permis d'inclure le suivi de 400 000 adultes à travers le monde. Et résultat, la démence numérique est un mythe. Il n'y a pas de dégénérescence cognitive liée au numérique. Au contraire, l'usage de ces technologies est associé à un déclin cognitif plus lent et plus tardif.
Et c'est intéressant sur le plan scientifique parce que ça valide l'hypothèse dite de protection, comme si, ce qu'on appelle la protection digitale, les technologies numériques vont nous protéger du déclin cognitif normal, entre guillemets, lié à l'âge. Donc, il y a beaucoup d'implications sur le plan scientifique, évidemment, sur ce que ça dit du cerveau en évolution, mais également sur le plan appliqué. Parce que on aurait pu imaginer l'inverse, que les technologies, du fait qu'elles sont associées à une sorte de décharge cognitive, amplifient le déclin. Or, c'est l'inverse. Alors, évidemment, ça laisse en suspens un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce que c'est les technologies cognitives qui protègent contre le déclin, ou est-ce que ce sont les gens qui ont un déclin protégé qui vont utiliser plus les technologies? Ça, on ne le sait pas vraiment encore. Quels sont les mécanismes responsables? L'une des hypothèses, c'est de dire que quand on utilise les technologies digitales, on mobilise des mécanismes cognitifs plus complexes et on sait, dans la littérature depuis 30 ans, que plus longtemps on va mobiliser des mécanismes mentaux complexes, plus on se protégera contre le vieillissement cognitif.
Évidemment, le type d'usage joue. Une étude parue il y a 3 ans démontrait que la télévision était associée à un risque accru de démence quand l'ordinateur, où l'on est véritablement actif et non passif, était associé à un moindre risque. L'engagement de l'individu est donc central. C'est aussi le résultat étonnant des jeux comme le Sudoku. Les bénéfices cognitifs sont plus importants quand on le fait sur tablette ou ordinateur plutôt que sur papier. En revanche, les jeux vidéo ont un effet global beaucoup plus limité. Reste à comprendre donc quel type d'usage et de fréquence aboutissent réellement à une protection, mais c'est une preuve évidente que les technologies numériques ne doivent pas être diabolisées.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Louanger, Alexandre Morales, Loïc Dutoit. À la réalisation, c'est Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, c'était Ruben Carmazine. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.